Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir.
Chaque peuple a un message singulier à délivrer au monde. Chaque peuple peut enrichir l'humanité en apportant sa part de beauté, de création, de vérité.
Jacques Chirac s'est éteint ce matin à Paris à l'âge de 86 ans. Depuis l'annonce de la mort du 22e président de la République française, les réactions et les hommages sont évidemment nombreux. Nous vous racontons depuis la fin de la matinée sur RFI la personnalité, le bilan humain et politique de l'ancien maire de Paris, de l'ancien Premier ministre, de l'ancien chef de l'État. Alors juste avant d'accueillir nos deux invités, focus sur sa vision et son bilan culturel. Nous avons joint il y a quelques minutes un de ses anciens ministres de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, qui a également travaillé avec lui à la mairie de Paris. Je lui ai d'abord demandé quels souvenirs il garderait de lui.
Écoutez, j'ai connu Jacques Chirac tout d'abord comme maire de Paris, ensuite naturellement comme président de la République. J'étais à Paris son directeur des affaires culturelles, ensuite son ministre de la Culture. Je me souviens avec beaucoup d'émotion et de reconnaissance de son engagement en faveur du développement de la culture dans notre pays. C'était un homme paradoxal, contrairement à d'autres. Il tentait d'accréditer l'idée qu'il était un culte. Il y prenait une sorte de malin plaisir, et ce n'est que très tard qu'il a révélé son jardin secret, en quelque sorte, la force de son amour de la culture, et notamment des cultures lointaines, des cultures des autres. Et c'est sans doute, c'est même certainement pour cette raison qu'il a consacré tant d'efforts et tant de passion, tant de persévérance à la création du musée du Quai Branly, qui porte aujourd'hui son nom, le musée du Quai Branly Jacques Chirac.
Comment est-ce que vous expliquez, Jean-Jacques Ayagon, qu'il ait eu autant de mal pour se déclarer justement un homme de culture? Je crois que c'était un journaliste qui expliquait qu'il était du genre à lire un catalogue d'expositions en se cachant derrière un Playboy. C'est une forme de pudeur?
C'était une forme de pudeur. Jacques Chirac était un homme extrêmement pudique, qui n'aimait pas se déballer, qui n'aimait pas se révéler. Contrairement à beaucoup d'autres, il ne faisait pas montre de toute l'étendue de sa culture, de sa connaissance des arts de l'Asie, des arts de l'Amérique précolombienne, sa connaissance de la poésie japonaise. Je l'accompagnais à plusieurs reprises au Japon et en visitant avec lui des musées. J'ai été impressionné par sa connaissance très très profonde de toutes les périodes de l'art japonais, notamment des périodes les plus anciennes, sa connaissance également de la littérature japonaise qu'il aimait citer. C'était un homme très cultivé, détenteur d'une culture très originale, d'une culture qui avait fait délibérément le choix des autres horizons, les horizons de l'Afrique, de l'Amérique d'avant la colonisation, de l'Asie, du Japon, des peuples primitifs, de façon plus générale. Il était curieux de tout cela et je crois que c'est cette inclinaison culturelle particulière qui a également expliqué certains de ses comportements politiques, notamment en matière de politique internationale, de politique étrangère.
Vous diriez, Jean-Jacques Ayagon, que Jacques Chirac était un inlassable avocat du dialogue des cultures?
Ah, c'était en effet un inlassable promoteur du dialogue des cultures. Et d'ailleurs, quand il y a quelques années, le musée du Quai Branly m'a confié le commissariat d'une exposition consacrée justement aux engagements culturel et artistique de Jacques Chirac, j'ai appelé cette exposition Jacques Chirac ou le dialogue des cultures.
Alors, le musée du Quai Branly, qui porte aujourd'hui d'ailleurs le nom de Jacques Chirac, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots l'histoire de sa création? Il y tenait beaucoup.
Écoutez, il y tenait depuis intimement beaucoup. Tout d'abord, vous savez, c'est un premier événement qui a été le révélateur de sa passion pour les cultures lointaines. Ça a été l'exposition sur les Taïnos, alors qu'il est encore maire de Paris, dont il m'avait confié l'organisation, dont il avait confié le commissariat, une personnalité qui allait devenir l'un de ses grands amis, Jacques Herchache. Quand je lui avais suggéré de célébrer la découverte de l'Amérique, le cinquième centenaire de la découverte de l'Amérique, Jacques Chirac m'avait dit « Il n'est pas question de célébrer la découverte de l'Amérique parce que nous autres, Européens, nous y avons commis des crimes abominables, nous y avons détruit des civilisations. En revanche, ce que je veux faire, c'est rendre hommage au peuple d'avant, au peuple dans les Amériques indiennes, dans les Amériques continentales, avait développé d'admirables civilisations, celle des Aztèques, celle des Mayas, celle des Incas et celle des peuples insulaires, celle des Taïnos, dans les îles de la Caraïbe. J'ai compris à ce moment-là à quel point son engagement en faveur de l'égale dignité des cultures était fort. Et devenu président de la République, je n'ai pas été étonné qu'il lance aussitôt ce projet d'un musée qu'on a appelé à un moment le musée des arts premiers, ensuite un musée des civilisations, musée qui est devenu le musée du Quai Branly, admirablement installé dans un bâtiment de Jean Nouvel au cœur de Paris, musée qui porte également aujourd'hui son nom.
En tant que ministre Jean-Jacques Ayagon, comment peut-on résumer le bilan culturel de Jacques Chirac en tant que président de la République ?
Son bilan est vaste et je crois que sa disparition sera une bonne occasion de dresser ce bilan de façon plus complète qu'on ne l'a fait jusqu'alors. Jacques Chirac, tout d'abord, savait que l'une des missions du président de la République, c'est de faire en sorte qu'une politique culturelle puisse être mise en œuvre dans notre pays dans les meilleures conditions. Il savait très bien que le président de la République n'avait pas vocation à être lui-même le ministre de la Culture, mais il savait que le président devait être là pour permettre au ministre de la Culture d'accomplir sa mission. Et je note d'ailleurs que Jacques Chirac a travaillé de façon extrêmement positive, extrêmement efficace avec tous ceux qui ont eu l'honneur d'être ses ministres de la Culture, des ministres de la Culture de droite parfois, Philippe Bouste-Blazy, moi-même, Renaud Dieudevabre ensuite, mais également des ministres de gauche, puisque pendant la période de cohabitation avec Lionel Jospin, il aura eu deux ministres de la Culture de gauche, Catherine Trottmann d'abord, Catherine Trasquin ensuite, et ces deux ex-collègues, ces deux femmes m'ont toujours dit à quel point leur relation avec ce président de droite avait été efficace et excellente, et même très, très, très amicale. Ils savaient que le président était là pour permettre de faire. Et Jacques Chirac a toujours veillé à ce que, notamment en matière de stratégie institutionnelle, puisque c'est l'une des grandes missions du ministère de la Culture que de veiller à ce que ces institutions, les institutions nationales, puissent être aussi efficaces, aussi performantes que possible, en matière de stratégie institutionnelle, il avait compris qu'il fallait soutenir les grands projets, ceux de création d'un musée qui allait devenir le musée du Quai Branly, au Louvre, la création d'un département des arts de l'islam. Il m'a également beaucoup soutenu quand il s'agit d'affirmer mieux l'autonomie des musées par la création, par exemple, de statuts d'établissement public à Orsay ou au musée Guimet. Il savait également que l'une des grandes missions de l'État en matière de culture, c'est d'être finalement le dépositaire et le transmetteur de la mémoire culturelle de notre pays. C'est la raison pour laquelle, après la remise d'un rapport par Georgette Elger et Annès Vieille-Borca, il a tenu personnellement et de façon extrêmement forte, puis c'est lui qui l'a annoncé à la presse, à être celui qui permettrait aux archives nationales d'être installées à Pierrefitte, au nord de Paris, de façon plus digne qu'elle ne l'était jusqu'alors. Donc c'est un président qui a été attentif et qui surtout était intimement forgé par la culture qu'il s'était faite et qui savait donc que c'était très important, que c'était très important pour les peuples, pour les nations, pour les sociétés, pour les femmes, pour les hommes.
Et puis vous avez aussi travaillé avec lui en tant qu'adjoint du temps où il était maire de Paris, donc avant qu'il n'accède à la présidence de la République. Là on est plus dans une politique culturelle de proximité. À quel niveau a-t-il agi ?
Bon, bah écoutez, là aussi, il a permis justement à ce que la ville de Paris remplisse ses missions culturelles sur un double registre. Tout d'abord, le registre qui est propre à toute commune, faire en sorte que la culture existe sur le territoire, qu'elle soit présente dans les conservatoires d'arrondissement, dans des théâtres d'arrondissement, que des ateliers puissent accueillir des pratiques artistiques partout sur le territoire parisien. Mais par ailleurs, il savait également que Paris est une grande ville, une grande capitale, et que si l'État y assume des missions importantes à travers ses établissements, la ville avait également mission d'y contribuer. Et je dois vous dire qu'il avait été tout particulièrement attentif à ce que ces établissements soient dirigés par des personnalités auxquelles il faisait confiance, des personnalités de grande envergure, des personnalités qui ensuite marqueront la vie culturelle et l'histoire culturelle de notre pays. Il savait qu'il fallait leur faire confiance, qu'il ne fallait surtout pas s'ingérer dans leurs responsabilités artistiques, mais qu'il fallait tout faire pour leur donner des moyens pour travailler. Parfois, les politiques s'imaginent que leur mission est de mettre en œuvre eux-mêmes une politique artistique. Jacques Chirac savait que la politique artistique, c'était l'affaire de ceux qui avaient la responsabilité des institutions et que par ailleurs, la politique culturelle, celle qui vise à fixer des objectifs et à donner des moyens, c'était l'affaire du politique. Donc il avait bien compris quelle était la mission spécifique du politique.
Jean-Jacques Ayagon, dernière question, un souvenir plus personnel de Jacques Chirac, pour terminer peut-être ?
Écoutez, beaucoup de souvenirs assaillent ma mémoire à l'heure qu'il est. Je me souviens peut-être plus particulièrement de voyages que j'ai pu faire avec lui au Japon ou à Rome, de son regard dans la campagne romaine, par exemple, sur le paysage de cette campagne romaine et sur les ruines, ce sentiment qui, à ce moment-là, l'animait de la fragilité des choses. Également au Japon, son enthousiasme face à la culture japonaise, son amour du sumo, par exemple, que certains ont raillé parfois, mais qui était une composante très 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 puissante de sa personnalité culturelle. Nous prenions, quand il était à Tokyo et que j'avais le plaisir de l'accompagner, le train pour aller à Osaka, notamment pour assister à des tournois de sumo, dont il était un immense connaisseur. Il connaissait le nom des lutteurs, ils avaient leur classement sur le tableau national, il conservait, je pense même dans son bureau, le tableau de ce classement, il se tenait informé, son information était à jour, c'était pour lui une immense passion.
Jean-Jacques Ayagon, que je remercie donc d'avoir réagi pour RFI et VMDN. Bonjour Catel.
Bonjour.
Bonjour Anne Goscinny.
Bonjour.
On va parler avec vous dans une poignée de secondes du grand scénariste de BD René Goscinny, mais je voudrais vous faire réagir en quelques mots. Catel, Jacques Chirac, on se dit formidable personnage pour un auteur de bande dessinée.
Et oui, pas seulement un grand homme politique, mais un homme grand, avec un nez affirmé, un personnage charismatique, tout à fait dans la lignée du général de Gaulle. Donc oui, ça serait un excellent personnage de bande dessinée.
Vous l'avez jamais dessiné vous-même, Jacques
Non,
Chirac.
Moi ça m'est pas arrivé, puis je travaille plutôt sur des portraits de femmes en général.
Voilà, effectivement. Alors en revanche, Uderzo, Anne Goscinny, a dessiné Jacques Chirac pour l'un des albums d'Astérix, pour l'album Obélix et compagnie. Ils lui ont donné, votre père et Uderzo, le rôle d'un conseiller de César nommé Saugrenus.
Alors, absolument.
Ça peut être étonnant quand même, parce qu'on se dit quand même que Jacques Chirac était peut-être plus un Gaulois qu'un Romain.
Oui, mais je pense que, vous savez, mon père a demandé à Uderzo de caricaturer un certain nombre de personnalités, au nombre desquelles Lino Ventura, Pierre Tchernia,
grand ami de Goscinny,
Annie Cordy, voilà, et il est passé sous le pinceau d'Albert Uderzo. Mais de Jacques Chirac, moi, je retiens, si je devais retenir une seule chose, ce serait le fait que c'est lui qui a reconnu la responsabilité de l'État français. Pendant la rafle du Veldiv et pendant la guerre.
Sous le régime de
Vichy. Et voilà, c'est le premier à avoir eu ce courage-là. Et à ce titre, moi je le pleure aujourd'hui.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Catel et Anne Goscinny sont donc avec nous pour évoquer un grand monsieur de la bande dessinée. Cette fois-ci, René Goscinny, le père d'Anne Goscinny, mais le père aussi d'Astérix avec Uderzo et d'autres personnages. On aura certainement l'occasion de les évoquer d'ici la fin de l'émission, qui a apporté, René Goscinny, une pierre de taille à la reconnaissance aussi du 9e art pour l'humour de la bande dessinée. La BD et l'humour, c'est vraiment ce qui surnage tout de suite de cet album que vous publiez aux éditions Grasset, le roman des Goscinny, naissant d'un Gaulois, justement, de passion, la BD et l'humour, indissociable du raconteur d'histoire qui était René Goscinny, disparu brutalement d'une crise cardiaque en 1977. Et c'est ce destin assez incroyable, celui d'un fils d'une famille juive exilée de Pologne et d'Ukraine, un fils facétieux que vous racontez dans cet ouvrage. Catel, et c'est vous, Anne Goscinny, qui avez convaincu, je crois que c'est vraiment le mot, hein, convaincu Catel, parce que ça n'a pas été si facile que ça, visiblement, de se lancer dans cette aventure.
J'ai pas eu à trop lutter quand même, mais c'est vrai
que... Elle dessine que les femmes, hein, elle vient de le dire.
Non, elle dessine aussi très bien les hommes, mais disons qu'elle ne prend la parole réellement que pour des femmes. Et quand je l'ai rencontrée et que je me suis dit, mais pourquoi elle a mis tout son talent au service de Kiki de Montparnasse, d'Olympe de Gouges, de Benoît de Groult, je me suis dit, mais pourquoi mon père ne bénéficierait pas aussi de cet immense talent et de ce coup de crayon que je trouve tellement élégant et qui lui correspondait formidablement? Et elle m'a dit, bah non, parce que ton père n'est pas une femme. Et là, je dois dire, j'ai peu d'arguments à opposer à cette vérité-là.
Certes.
Et puis finalement, elle a réfléchi. Et moi, dans la balance de sa décision, je lui ai quand même précisé que si elle acceptait, je ferais pour elle ce que je n'ai fait, j'ai jamais fait pour personne. C'est-à-dire que je lui ouvrirais toutes mes archives et qu'elle aurait accès à tous les documents que je possédais, que tout ce que je savais, elle le saurait. Et elle m'a dit, ben voilà, j'ai réfléchi et je peux raconter ton père par ta voix et par tes yeux.
Oui, parce que vous aviez besoin d'une héroïne, qu'est-elle, d'une co-héroïne en tout cas.
Mais c'est pas que j'en avais besoin, parce que pour moi la décision était prise, je n'allais pas le faire, mais j'ai revu Anne pour une autre raison, je voulais lui faire dédicacer ses livres, parce que Anne est une remarquable écrivaine dont j'avais tous les livres, j'étais très fan, et donc en la voyant pour lui faire dédicacer un de ses albums, elle m'a un peu raconté sa vie, et en partant de ce rendez-vous, je me suis dit, mais mon héroïne, c'est elle, la clandestine de l'histoire des Goscinny, c'est Anne. Et voilà que je lui ai proposé de faire un double portrait, celui de son père, mais aussi celui de la fille de Goscinny, qui a dû se réinventer aussi une fois qu'elle avait perdu son père à 9 ans, puis quelques années après sa mère, qui a dû devenir une personnalité voilà, qui me plaisait. C'était un coup de foudre d'amitié, et c'est ce double portrait que j'ai voulu faire.
Ouais, et tout cela, vous le racontez hein, dans l'album lui-même. Vous avez parlé, reparlé pendant, je sais pas, des jours, des mois, des semaines. Ça a duré combien de temps?
Ouais, ça a duré longtemps. On a passé plein de vacances ensemble, on s'est beaucoup vus. Et puis, je pense qu'on est assez bavardes l'une et l'autre, donc on n'a pas eu non plus à beaucoup se forcer pour parler aussi d'autres choses que de mon père, parce que cette amitié-là, elle ne s'est pas tissée qu'avec mon père en toile de fond. Elle s'est tissée entre nos deux personnalités, et c'est une amitié réelle. En fait, c'est une amitié d'enfance à l'âge adulte.
Oui, c'est vraiment le sentiment qu'on a effectivement en découvrant les planches de la BD. Vous dessinez souvent qu'est-elle Anne Goscinny dans un salon au bord d'une piscine, souvent les pieds sur le canapé d'ailleurs.
Hein, oui, c'est voilà, à travers c'est, que j'ai. Ouais.
C'est tout à fait la posture en train de caresser le chien. Vous prenez des notes, vous enregistrez. Comment se sont passés ces entretiens? C'était très dirigé ou au contraire vraiment à bâton rompu?
Ah, c'était pas du tout dirigé au début. Oui, j'ai essayé un petit peu, mais j'étais vite submergée en fait par nos conversations qui partaient dans tous les sens et intimes et en même temps très professionnelles. Donc elle m'a en effet ouvert les portes de l'intimité de son papa avec des documents exceptionnels, notamment les dessins originaux de René Goscinny.
Et vous en publiez
voilà,
très
donc
nombreux
j'ai pu
au fil
reproduire,
de votre récit.
Voilà, et le mettre en situation, une mise en abîme finalement de ce personnage qui était un dessinateur, un auteur de BD avant de devenir un scénariste. Et puis en même temps, nos vies avec nos familles, nos enfants qui rigolaient ensemble. On a passé plusieurs étés ensemble. Et puis à force voilà, de connaître l'histoire d'Anne, son intimité, c'est venu en parallèle. Et ça a créé ce duo en fait.
Alors il y a donc deux narrateurs en fait. Il y a Anne Goscinny elle-même. Et puis il y a le père, il y a René Goscinny dont on entend la voix. Parce qu'on a vraiment l'impression de l'entendre. Hein. Lorsque c'est lui qui raconte, ce sont ses propres mots que vous avez
utilisés.
Mais
oui, c'est cette chance. C'est que dans tous les documents que m'a donné Anne, au-delà des dessins, il y avait comment faire parler le papa avec ses mots. Donc je lui ai vite demandé de me fournir quelques interviews, si elle en avait, de son père, pour faire des bulles. Et là, grâce à l'Institut Goscinny que son mari organise, et il m'a pu me fournir plus de 1000 pages d'interviews collectées durant la vie de René. Et grâce à ça, j'ai mis des bouts de phrases en fait, de tous ces interviews comme des perles, et j'ai enfilé un collier pour lui faire raconter sa vie avec ses propres mots. Et c'est ça l'originalité, c'est que c'est finalement d'une certaine façon le dernier livre, les dernières paroles de René sur lui-même.
Donc gros travail de documentation, gros travail d'entretien. Entre les deux narrations justement, il y a ces différents documents, ces différents dessins que l'on découvre, il y a les dialogues que vous avez donc construits et la narration, vraiment les mots qui sont ceux de René Goscinny. Comment vous avez avancé tout ça, Catel, parce que c'est un travail monstrueux?
Ah oui, ça a pris des mois, des années en fait.
Quatre ans,
voilà. Et ben déjà pour construire cette histoire, et je me suis rendu compte que finalement il parlait de beaucoup de choses, René, sauf de certaines très importantes. Il omettait certaines choses, par exemple la Shoah, où toute sa famille est partie en camp de concentration, enfin les trois quarts de sa famille. Et donc ça, il n'en parle pas ou à peine. Et c'est là que Anne a pris le relais en me racontant ce qui s'était passé, aussi les origines ou la relation avec sa mère, qui était quand même très fusionnelle, puisque jusqu'à 30 ans, il est resté vivre avec sa maman. Et toutes ces choses-là d'intimité.
Jusqu'à 40 ans.
Voilà, précision d'Anne Goscinny. Soyons précis. Alors, Goscinny, père, hein, décrit ainsi son travail, page 262 du roman graphique. Je le cite. « Quand j'écris un scénario, dès le début, je sais où je vais, ce qui me permet de doser mon récit et d'éviter les temps morts. Je fais un synopsis long et précis pour l'ensemble de l'histoire. Et quand celle-ci est au point, je la découpe par planches. » Est-ce que c'est comme ça que vous avez travaillé, Ketel?
Ah ben, ça m'a beaucoup appris, oui. C'est-à-dire que d'abord, j'avais beaucoup, beaucoup de choses. Mais moi, je ne travaille pas sur la fiction, là. Je travaillais sur la réalité, qui dépasse d'ailleurs souvent la fiction. Hein. Les histoires vraies sont incroyables. Donc, j'ai quand même suivi sa démarche, c'est-à-dire de tout collecter, d'écrire des kilomètres et des kilomètres de pages pour finalement garder l'essence même et les choses les plus importantes. Et alors là, j'ai fait mon découpage et j'ai réduit pour arriver à faire seulement 300 pages.
Oui, parce que moi, je pensais qu'on allait avoir un deuxième tome, mais en fait, non.
Si, il est prévu d'y avoir une suite, parce que là, c'est la création d'Astérix.
Voilà, parce qu'après, il y a toute l'aventure d'Astérix. D'accord, voilà. Absolument. Donc, on va dire un deuxième ou un troisième tome, peut-être. Après,
deuxième,
ça sera. Un deuxième tome. Voilà,
parce d'accord. Parce que là, on s'arrête en 59 à la création de Pilote. Après, il y a toute l'aventure Pilote, l'aventure des studios et des fixes. Enfin, il y a encore.
Et la naissance d'âme, bien sûr, en 68.
Et on a encore à en dire. Sauf que dès le départ, la mort de René Goscinny est vraiment un événement fondateur du récit, hein, parce que le récit commence par un prologue qui en plus est traité avec une couleur un petit peu différente de la suite du récit. Ça se passe dans le 17e arrondissement de Paris, dans le cabinet d'un cardiologue. Alors c'est une scène très étonnante, hein, au début quand on ne connaît pas l'histoire de René Goscinny, parce que Ketel vous dessine Anne Goscinny et vous entrez dans le cabinet de ce médecin avec un flingue.
Alors, je remets un peu les choses à l'endroit. Mon père est effectivement mort à la clinique du Parc Monceau, rue de Chazelles, pendant un test d'effort qui était programmé depuis longtemps. Mort d'une double erreur médicale, mort d'abord parce qu'il avait ce qu'on appelle une angine de poitrine et que la personne à l'hôpital américain qui aurait dû décommander ce rendez-vous, parce qu'on ne fait pas faire un test d'effort à quelqu'un qui a une angine de poitrine, ne l'a pas fait. Donc oublie de... Voilà, mon père ne savait pas qu'on ne le faisait pas. Et d'autre part, il a effectué ce test d'effort dans un endroit où il n'y avait pas à l'époque de salle de réanimation. Donc il s'est mis en danger considérablement. Et enfin, quand il a informé le cardiologue d'une douleur qu'il avait au bras en pédalant, alors qu'il avait des électrodes partout, et quand il a commencé à dire « j'ai mal au bras gauche, j'ai mal dans la poitrine », le cardiologue, au lieu de lui dire « arrêtez-vous tout de suite », lui a dit « pédalez encore 15 secondes, monsieur Goscinny, 15 secondes, j'ai plus de rendez-vous avant longtemps ». Et mon père, qui avait déjà dérangé ce cardiologue un samedi, puisqu'on était un samedi, a pédalé et s'est écroulé mort. Donc c'est une succession d'erreurs avec lesquelles moi je me suis construite, avec lesquelles j'ai grandi, racontée de façon obsessionnelle par ma mère qui est morte finalement aussi de la mort de son mari, qui s'en est jamais remise. Et je me suis dit, voilà, le jour de mes 18 ans, je prendrai rendez-vous chez ce cardiologue sous un faux nom, en l'occurrence celui d'une de mes grand-mères, et j'irai lui faire très peur. Évidemment, je n'avais pas de flingue dans ma
voilà,
poche.
C'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui, d'ailleurs.
J'avais un grand manteau et je peux vous dire qu'il a eu très peur, mais il m'a expliqué que mon père serait sans doute mort quelques heures après, puisqu'il était très malade. Et il a ajouté avec cette élégance qui peut caractériser certains médecins. D'ailleurs, je n'ai jamais reçu aucun honoraire de votre famille. Et voilà, donc je crois qu'il a eu peur et moi je pense que ça m'a peut-être un peu soulagée, je sais pas, je peux pas vous garantir que ça m'a aidée, mais en tout cas je l'ai fait et ma mère a été très heureuse de ce geste.
Il fallait commencer par cet élément-là dans votre récit, qu'est-elle ?
Eh bien, c'est toute la dimension romanesque de mon héroïne, ça. Quand elle m'a raconté ça, j'étais comme vous, mais est-ce qu'il y avait vraiment un flingue dans
voilà,
sa poche
bah
ou
oui.
pas? Mais je trouve que, au-delà de ça, c'était la démarche d'aller se venger, soulager. Enfin, c'était une héroïne de la vie du quotidien, mais incroyablement décalée. Et ce n'est pas tout. Elle nous réserve encore des surprises.
C'est moi Laurel, c'est toi Hardy, c'est toi le gros et moi le petit.
C'est toi Laurel, c'est moi Hardy, et nous sommes de bons amis.
Quand l'un y va, l'autre le suit, toujours ensemble, toujours unis.
On se dispute, mais qu'est-ce qu'on rit, nous sommes Laurel et Hardy.
Chacun aura évidemment reconnu, hein, et Ketel, vous en faites une pleine page de cette chanson, vous en faites une chanson dessinée, Laurel et Hardy, évidemment. Pourquoi ?
Ah ben pourquoi ? Parce que c'est la référence absolue pour René Goscinny. Il le disait que plus que Kant et Spinoza, Laurel et Hardy l'avaient fait réfléchir. C'était vraiment ses modèles de philosophie, et de rigolade bien sûr. Et ça me parlait particulièrement parce que moi, enfant aussi, j'adorais Laurel et Hardy, que j'ai découvert grâce à Pierre Tchernia dans les émissions de télévision. Et puis après le dessin animé, et Anne et moi, on a eu aussi cette culture des années après, évidemment. Mais la loufoquerie de ce duo, évidemment, c'est hilarant.
Oui, c'était un vrai cinéphile, René Goscinny.
Ah, c'était un fou de cinéma, et d'ailleurs, il a beaucoup dit qu'il arrêterait Astérix un jour et qu'il se consacrerait ensuite au cinéma. Ce qu'il a fait, d'une certaine façon, en créant le premier studio d'animation français avec les studios Idéfix dans les années 74 ou 75. Ça a été sa grande passion.
Et notamment Walt Disney et Blanche-Neige. Hein, c'est l'un des films que Cattell met en exergue dans sa biographie.
Absolument, il aimait beaucoup les westerns. Je me souviens d'une scène incroyable. On était un soir chez moi à la maison et il y avait La Flûte Enchantée de Bergman en suédois, non sous-titré, sur une chaîne. À l'époque, il y avait deux chaînes et sur l'autre chaîne, il y avait un super western. Et ma mère, évidemment, voulait regarder La Flûte Enchantée. Mon père voulait regarder le western. Et mon père m'a dit, non, mais tu as raison. La Flûte Enchantée, ça va tellement, tellement plus amuser la petite, laquelle petite c'était moi et qui avait 7 ans à l'époque. Ça va tellement plus l'amuser d'entendre un opéra de Mozart en suédois, non sous-titré, enfin, en allemand, mais sous-titré en suédois. Et finalement, il a gagné son western comme ça, quoi.
Voilà. Donc, on sent déjà l'humour du personnage aussi. Ouais. Et c'est vrai que l'humour, c'est presque pour l'humour de l'art, quoi, d'une certaine façon, hein, que toute la carrière de Goscinny, c'est construit, quoi. Son carburant, son oxygène, c'était l'humour.
C'était sa façon de voir la vie, c'était sa façon d'interpréter la vie et c'était sa façon de résister à l'horreur qui, à mon avis, l'horreur intime que sa famille a connue. C'est-à-dire que la dernière réunion de famille où tout le monde est présent, où tout le monde est vivant, c'est en 1932, donc d'après mes informations, en Belgique. Et puis puisqu'il vivait quand même très loin, il n'est revenu que 3 fois en Europe avant la guerre. Et puis un jour, sa mère a reçu une lettre d'une de ses sœurs en disant « Je pense que cette année, vous devriez rester en Argentine. » Et de ce chagrin-là, de cette horreur-là, il s'est jamais remis. Et il en a fait son métier avec l'humour.
Vous m'en direz des nouvelles ? Sur RFI.
Avec Cattell et Anne Goscinny pour évoquer le roman des Goscinny, Naissance d'un Gaulois, paru aux éditions Grasset. Alors, votre héros René Goscinny, Cattell, par quoi est-ce que vous commencez lorsque vous le dessinez ? Son visage ?
Bien, chance pour moi, d'abord, il a été beaucoup représenté par beaucoup de dessinateurs, mais surtout adultes. Moi, j'avais à le dessiner petit, bébé même, jusqu'à l'âge adulte. Mais bon, déjà, j'avais une vision de ce qu'avaient fait les autres. Et puis après, chance aussi, c'est qu'il a un visage très reconnaissable. Il le disait d'ailleurs lui-même, qu'il avait une bouille marrante qui faisait rigoler les gens dès sa naissance.
Il a une tête de gamin, quoi.
Il a une tête ronde et c'est vraiment un Tintin, d'une certaine façon. Il a le nez pointu et surtout, il a ses fossettes quand il sourit. Qui sont uniques, donc on le reconnaît toujours grâce à ce sourire tout au long de l'album.
René Goscinny est né le 14 août 1926 à Paris, pas très loin du Panthéon, mais 2 ans après, lui et sa famille embarquent sur un transatlantique, direction effectivement l'Argentine, où son père ingénieur va s'installer pour son travail, et ce n'est que le début d'une longue vie d'exil, d'aller et retour, hein, qui sont d'ailleurs très très bien racontés hein, sur les transatlantiques, puisque Goscinny, avant d'être gaulois, était réellement un exilé, il le raconte lui-même à la télévision en 1976.
J'ai vécu 17 ans de ma vie en Argentine, et 7 ans aux États-Unis, c'est-à-dire 24 ans de ma vie se sont passés à l'étranger. Je suis arrivé en Argentine en 1928, par conséquent, on était très coupés. Partir à l'étranger, c'était un vrai départ, c'était un véritable exil. Il n'y avait pas d'avion, le voyage par bateau durait un mois, on ne téléphonait pas, les télégrammes c'était uniquement pour annoncer une mauvaise nouvelle, donc on ne les utilisait malheureusement dans ces cas-là. Par conséquent, nous étions tout à fait coupés. Moi j'avais la chance, mon père avait un congé tous les 3 ans et nous revenions en France. Pour moi ce sont des souvenirs très très agréables, c'est toute mon enfance, c'est toute mon adolescence qui a été agréable, plaisante. Et ce pays, l'Argentine, c'est mon pays, quand même. Et quand j'y reviens, parce que j'y suis retourné, je retrouve mon pays, un pays qui a bien changé, mais qui reste le mien. Et en même temps, là-bas, j'étais à la fois, c'est cette chose très curieuse que nous connaissons tous, nous sommes totalement étrangers et nous faisons totalement partie du pays. Et c'est une impression tout à fait extraordinaire, et on se fait une image de la France. Pour moi, vous comprenez, les choses banales, c'était la pampa, c'était le gaucho. Ces choses-là étaient banales. Ce qui était pour moi l'exotisme, c'était ici les moulineaux. C'était l'Ardèche, c'était ces mots extraordinaires. Pour moi, la France était une carte rose. C'était les livres d'histoire de Malé-Isaac, c'était Louis XIV disant l'État c'est moi, c'était le tour de France par deux enfants. Et on idéalisait ce pays d'une façon extraordinaire. Et bien sûr, quand on y revient, il faut faire coller l'idéal et la réalité, ce qui n'est pas toujours facile.
Et ce témoignage-là, on a vraiment l'impression de le voir graphiquement dans l'album, Katel.
Oui, il fait partie des interviews justement qui ont été retranscrits et que j'ai remis dans l'album et que j'ai bien évidemment illustré.
Alors, on est clairement dans une autre époque. Hein. Alors, vous racontez les souvenirs agréables à Buenos Aires, les bonnes notes au lycée français. En même temps, Anne Goscinny, c'était un petit chenapan quand même. Hein. Il aimait beaucoup faire rire ses camarades en classe. Hein.
Oui, mais
un peu le guignol.
Oui, oui, sûrement, mais il était aussi terriblement angoissé et rien que pour ça, c'était un très bon élève.
Voilà, à part peur des mauvaises notes, par peur de décevoir aussi peut-être.
Oui, peur de décevoir, c'était quelqu'un qui était très angoissé et qui l'est resté jusqu'à la fin de sa vie.
Alors, les origines de la famille sont polonaises du côté du père et ukrainiennes du côté de la mère. Anne Goscinny, une famille juive, vous le disiez tout à l'heure, confrontée très tôt à l'antisémitisme, qui a payé un lourd tribut au moment de la Shoah et même pendant les années 30. Hein,
non, mais même avant, il quitte l'Ukraine, la famille de sa mère, en 1905, pendant les pogroms. Et comme le père de ma grand-mère était le rabbin du shtetl, du village, un petit village qui s'appelait Rodorkov, au nord de Kiev, sa maison, elle racontait, ma grand-mère, que leur maison a été brûlée la première avec des hommes à cheval, les hommes du tsar à cheval, qui rentraient dans les maisons et qui brûlaient les maisons. Voilà, elle me racontait ça le soir pour m'endormir. Après,
ouais. Alors lui en parlait assez peu, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il en parlait assez peu. Et pourtant vous dites dans l'album, Anne Goscinny, mon père était viscéralement juif. Ça veut dire quoi, viscéralement juif?
Oula, alors on a combien de temps là? On a 4 heures, 5 heures? Je sais pas, c'est une question un peu intime, très intime et compliquée. Je pense qu'il était très très attaché à ses racines, à son enfance, à son éducation. Il venait pourtant d'une famille tout à fait laïque. Ses parents étaient laïcs. Néanmoins, je suppose que ça avait une importance. Et je maintiens ce « je suppose » parce que la seule preuve de cette importance, c'est moi, en fait. Et c'est mon implication à moi dans la communauté juive. Et je pense que ça, il me l'a transmis d'une certaine façon par capillarité. Donc je n'ai pas d'autre preuve que mon engagement à moi.
Alors, en 1943, le père de René Stanislas meurt. Évidemment, c'est la guerre, donc c'est vraiment pas le bon moment pour rentrer en Europe. À 17 ans, il va devenir être comptable, alors qu'il déteste les chiffres. Hein. C'est ce que vous nous racontez, Katel. Il va travailler dans une agence de pub. Alors, c'est pas toujours formidable, mais là, au moins, il dessine. Et on découvre assez tôt dans l'album que Goscinny n'était pas seulement un formidable scénariste, mais qu'il était aussi dessinateur. Il a commencé, on évoquait Blanche-Neige tout à l'heure, on évoquait Disney, il a commencé en copiant des dessins animés, des BD. Alors, il y a Blanche-Neige, il y a les Pieds Nickelés, je crois qu'il était vraiment très... il aimait beaucoup cette bande dessinée, plusieurs comics américains aussi, dessiné un peu dans les marges de ses cahiers quand il était à l'école, et vous publiez donc justement plusieurs de ses croquis. Comment est-ce que vous pourriez définir à ce moment-là le trait de Goscinny, Katel? Il y a beaucoup de caricatures aussi, hein.
Oui, ben il a un dessin qui est quand même assez habile, hein, et depuis tout petit il dessine, il recopie comme tous les dessinateurs d'ailleurs dans ses marges de cahiers d'école. Il fait ses profs, il fait ses copains, il met des mots aussi souvent dessus. Il y a un décalage, et puis après il y a la guerre et il dessine ce qu'il perçoit de la guerre. Il fait des caricatures d'Hitler qui sont remarquables, de Mussolini, et comme disait le grand dessinateur Tommy Ungerer, sans désespoir pas d'humour. Et on sent vraiment que son humour est à la hauteur à ce moment-là de son désespoir.
Oui, des portraits très très expressifs.
Très déjà. Expressifs, voilà, il se lance dans le dessin de presse. Et c'est avec ça qu'il ira après à New York pour démarcher qu'un carton plein de caricatures comme ça et de dessins d'humour. Bon, il va avoir un petit peu de mal parce qu'il sera un peu décalé dans l'esprit dans lequel il arrivera à ce moment-là à New York. Les dessinateurs font plutôt des super-héros, font plutôt des dessins très réalistes, des Superman. Lui, il arrive, il crée un détective privé qui est super banal et qui rate toutes ses affaires.
Dick,
voilà, que ce soit graphiquement ou dans son intention, dans ce qu'il raconte, il est décalé déjà. Mais il se rapprochera de l'école belge dans laquelle il aura un écho remarquable.
Oui, parce que c'est à New York que grâce à un ami commun, il va rencontrer Joseph Gillin. Alors, personne ne sait qui c'est Joseph Gillin, mais J.G. est déjà... On commence un petit peu à connaître le personnage, un dessinateur belge que l'on connaît notamment grâce à Jerry Spring et à d'autres. Il rencontre aussi un certain Maurice de Bever, dit Maurice, donc le créateur de Lucky Luke évidemment. Et puis arrive un certain Georges Trois-Fontaine. Alors c'est qui Georges Trois-Fontaine, Anne Goscinny?
Mais Catel va répondre mieux que moi.
Catel le présente mieux, mais c'est un petit peu lui qui va donner envie à Goscinny de venir en Europe.
D'éditeur belge qui travaille, qui a monté sa propre agence, mais en rapport avec les éditions Dupuis, et qui fait travailler une quantité de jeunes dessinateurs pour un tas de journaux. À ce moment-là, c'est très prolixe, les journaux. Et donc, il propose, en rencontrant très rapidement Goscinny à New York, chez J.G. et avec Maurice, de passer le voir quand il passera en Belgique, quand il viendra par hasard en Belgique.
Une phrase un peu mondaine finalement.
Voilà. Ouais. Mais évidemment, René le prend à la lettre et puis prend toutes ses économies et décide de prendre le bateau pour la Belgique avec son Dick sous les bras et va lui apporter. Et Trois-Fontaine est absolument halluciné de voir débarquer ce jeune homme avec ses dessins qui ne sont pas tout à fait au point. Il ne comprend pas très bien ce qu'il peut en faire. Mais finalement, heureusement, il y aura Jean-Michel Charlier qui, à ce moment-là, est directeur artistique de la boîte, la WordPress, qui détecte la qualité de scénariste surtout chez Goscinny.
Voilà, Charlier, c'est celui qui a entre autres créé et Bug Dany.
Voilà, exactement.
Alors, en 1951, la WordPress ouvre un bureau à Paris, sur les Champs-Élysées, et c'est là que René Goscinny va rencontrer un certain Albert Uderzo, et les deux hommes vont assez vite travailler ensemble. Ils le racontent tous les deux. Nouvel extrait d'une interview d'archives, c'était à la télévision en 1966.
Notre collaboration a commencé il y a de cela 15 ans. Nous avons commencé à travailler ensemble à ce moment-là. Je faisais des textes pour Uderzo, qu'Uderzo illustrait. Nous avons ainsi créé pas mal de personnages, notamment Oumpapa le peau rouge, Pistolet qui était un corsaire. C'était toujours des histoires humoristiques jusqu'à arriver à Astérix.
Et alors comment est né Astérix?
Astérix est né de la façon suivante. Nous devions faire une histoire pour un journal d'enfants. Et nous voulions que cette histoire soit originale et surtout très française. On est remonté à travers l'histoire, on a commencé par l'âge préhistorique et ensuite les Gaulois. Et là on s'est aperçu, Goscinny s'est aperçu que les Gaulois n'avaient jamais été adaptés en bande dessinée.
Est-ce que vous recevez beaucoup de courriers?
Oui, beaucoup, énormément même.
Qu'est-ce qu'on vous demande?
Eh bien, nous recevons des lettres qui, en général, sont très gentilles, sont très aimables. La plupart des gens nous disent qu'ils aiment bien ça et veulent nous le faire savoir, ce qui est très agréable pour nous. Et beaucoup de gens, ce qui les amuse, c'est de nous envoyer des noms gaulois, des noms romains, des noms égyptiens, grecs, phéniciens, enfin, ça les amuse beaucoup.
Est-ce que vous avez déjà utilisé des noms que vous ont envoyé des lecteurs?
Oui, notamment, ça nous arrive de temps en temps, mais notamment en ce qui concerne le petit chien d'Obélix, nous ne savions pas quel nom lui donner, nous avons demandé à nos lecteurs de nous aider. Nous avons reçu énormément de noms et nous avons choisi Idéfix.
Alors ça, je finirais complètement que c'était pas les auteurs qui avaient choisi effectivement le nom d'Idéfix.
Oui, dans Pilote, effectivement, il avait lancé le challenge et ils ont eu beaucoup, beaucoup de propositions. Et c'est Idéfix qui a été retenu.
Alors Astérix, c'est évidemment l'énorme succès s'il en est. Et on peut dire que c'est un peu le résultat qu'a-t-elle du meilleur des deux auteurs, puisque la force du Uderzo, c'est unanimement reconnu, c'est le dessin. Et Goscinny, on l'apprécie surtout pour ses idées, pour ses scénarios, pour son sens de l'humour et pour son sens de la narration.
Absolument, oui. Goscinny s'est vite rendu compte que son truc, c'était plutôt l'écriture, surtout qu'il est tombé, malheureusement, et heureusement pour nous, mais malheureusement pour lui, sur des génies du dessin, que ce soit Maurice, Uderzo ou Sempé, ou Franquin ou d'autres. Mais ça l'a un peu calmé côté dessin, et il a pu se donner totalement à l'écriture. Voilà ce qui était formidable. Et d'ailleurs, pendant longtemps, il a pris des pseudonymes, parce qu'il écrivait pour tout le monde dans les années 50, tous les dessinateurs qui carburaient à ce moment-là. Et je sais pas, il signait Agostini ou Macaire, ou même Liliane Dorsay, parce que dans certains certains journaux, il se faisait passer pour une femme et donnait des conseils aux jeunes femmes de psychologie, alors que lui-même avait 30 ans et vivait avec sa mère. C'était
amusant. Ça, c'est extraordinaire quand même, cette séquence-là. Il travaillait avec Uderzo, d'ailleurs en tandem pour l'hebdomadaire. Bonne soirée hein, c'est absolument. Ça, Goscinny. Rubrique Savoir-vivre, ça avait l'air assez savoureux quand même. Vous avez gardé des articles
j'ai tout, bien sûr. Oui. Et en fait, ils se sont fait virer parce qu'un jour, il y a une dame qui leur écrit, courrier des lecteurs, qu'elle reçoit à dîner un ministre, un archevêque et un préfet, et elle demande comment les placer protocolairement, et mon père répond, le cul sur une chaise, c'est plus confortable.
Certes.
Et ça n'a pas plu à Bonne Soirée.
Non,
et ils se
c'est
sont
pas le genre
virer.
De la maison.
Mais le grand, grand talent de mon père, ça a été les duos. Puisque en fait il a eu l'intelligence de se percevoir moins bon dessinateur qu'il n'était bon scénariste, et il a su, et ça c'est incroyable, s'entourer des meilleurs dessinateurs de sa génération.
Donc Maurice, Uderzo, Sampé pour
Nicolas, Jean Tabary pour Isnogoud, qui était quand même un virtuose absolu.
Alors on a l'impression d'ailleurs à chaque fois que ce soit justement avec tous ces auteurs qu'on vient de citer, mais à chaque fois c'est un peu la même chose, qu'on a toujours l'impression de deux compères, de deux copains qui s'entendent très bien. On a l'impression de deux gamins qui ont envie de créer, on a envie de raconter des histoires. C'était aussi idyllique que ça, Catel, d'après ce que
je pense que la vraie potion magique, c'est ça en réalité. Ouais. Hein. Ouais. S'il n'y a pas l'amitié, le coup de foudre, ça ne se fait pas les choses. Moi, je le vois à mon échelle, hein, et la rencontre avec Anne en est la preuve. C'est que s'il n'y avait pas eu ce coup de foudre d'amitié entre nous, ça n'aurait pas pu se faire, dans les deux sens. Et c'est exactement ce que j'ai retrouvé en René, en voyant sa vie, c'est ces rencontres amicales et artistiques qui font des étincelles et qui créent des héros qui restent.
Oui, sauf qu'il y a quand même des problèmes sérieux dans la bande dessinée à l'époque. Les conditions de travail sont quand même pas idéales, c'est le moins qu'on puisse dire. Les auteurs à l'époque sont pas aussi respectés qu'ils le sont aujourd'hui.
Les scénaristes
notamment, quoi. Et pour quelle raison d'ailleurs, Anne Goscinny, selon vous ?
Parce que c'était l'usage, et parce que ce qui frappe quand on ouvre une bande dessinée, sans doute, c'est le dessin. Et le nom du scénariste n'apparaissait pas sur la couverture.
Et il en souffrait de ce manque de reconnaissance-là ?
Ben, il devait en souffrir tellement qu'il a imposé que son nom apparaisse désormais sur la couverture. Mais les premiers Lucky Luke qu'il signe avec Maurice, il n'y a pas son nom. Quand les albums ont été réédités, bien sûr, il y a eu son nom. Mais au départ, non.
Alors Goscinny va créer sa propre agence, hein, avec Charlier, avec Uderzo, avec Jean Hébrard, que l'on connaît moins. Peut-être pouvez-vous dire un petit mot pour
Qui travaillait à la Word, qui travaillait à la production à la Word, mais ils ont décidé de les quatre de se réunir, voilà, comme des mousquetaires, et de former leur propre agence, puisqu'ils s'étaient fâchés avec Troisfontaines en réclamant des droits justement sur leurs conditions. Et en créant leur agence, et ben ils ont eu la chance de travailler avec une radio qui leur a proposé
Radio Luxembourg
qui leur a proposé de lancer un nouveau journal. Et la puissance de la radio à cette époque-là, d'ailleurs toujours aujourd'hui, on le voit bien aujourd'hui.
J'espère.
C'est de lancer ce nouveau journal, de trouver des auditeurs, de faire parler de leur création, et ça marche.
Donc le journal pilote, lancé en 1959, est-ce qu'il était un rédacteur en chef heureux? Parce qu'il l'a dirigé longtemps,
ce
journal pilote, jusqu'en 1974, je crois.
Oui, il a été extrêmement heureux, et je pense qu'une de ses passions, à part le scénario, était de découvrir des talents. Et il a mis le pied à l'étrier à des gens qui sont les stars d'aujourd'hui. Fred, Bretéché, Druyer, enfin sans toujours comprendre les univers auxquels il avait accès. Druyer, par exemple, la science-fiction, c'était vraiment pas son truc, à mon père. Et finalement, il savait quand même reconnaître le talent, même d'univers auquel il ne comprenait rien.
Alors ce premier tome donc de ce diptyque est intitulé « Naissance d'un Gaulois ». Il y a clairement un avant et un après Astérix, Anne Goscinny.
Dans la vie de mon père, il y a eu évidemment un avant et un après Astérix. Malheureusement, Astérix est né en 1959, le premier album paraît en 61, et mon père disparaît en 77. Donc c'est un succès qu'il n'a pas eu vraiment le temps réellement de savourer.
Merci beaucoup à toutes les deux d'être passées à nous voir. Le second tome est prévu pour quand, Catel ?
Un peu plus tard.
Oui, on peut déjà donner le titre, après la naissance d'un Gaulois.
Ça sera l'héritage d'un Gaulois.
L'héritage d'un Gaulois. Merci beaucoup Anne Goscinny et Catel d'être passées nous voir.
Beaucoup.
Le roman des Goscinny est publié aux éditions Grasset.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Une licorne, un piano fou ou encore un pan albinos, ce sont les étranges créatures qui peuplent en ce moment le centre Pompidou-Metz dans l'est de la France. Une exposition est en effet consacrée à l'artiste allemande Rebecca Horn. À 75 ans, c'est l'une des artistes les plus singulières de sa génération. Fanny Blechner a visité pour nous son théâtre des métamorphoses, un univers onirique où les objets peuvent prendre vie.
L'exposition s'ouvre sur une vidéo présentant une performance de l'artiste. On est en 1974, regard bleu face caméra, Rebecca Horn coupe ses longs cheveux roux. Le rapport au corps est l'une des principales thématiques qu'explore la plasticienne, proposant différentes prothèses comme de longues extensions de doigts, dont la composition va évoluer suite à un accident que nous raconte Alexandra Müller, commissaire de l'exposition.
Elle a fait des expériences avec de la résine polyester et a été atteinte d'une intoxication pulmonaire qui l'a contraint à rester pendant un an et demi en réclusion totale dans un sanatorium. Donc elle ne va plus faire ses empreintes de corps en résine comme elle a pu le faire durant ses études, mais se tourner vers des matériaux beaucoup plus doux, le feutre, les plumes, et elle va s'imaginer des prothèses, des prolongations de son propre corps.
On retrouve ainsi l'une de ses performances les plus connues, la licorne, la déambulation d'une femme nue harnachée de sangles blanches, soutenant sur le sommet de son crâne une corne démesurée. La performance est filmée et présentée dans l'exposition, car la dimension cinématographique occupe une place prépondérante pour l'artiste.
Dès le début de sa carrière, elle va se mettre à tourner ses propres performances en Super 8 et au fur et à mesure, ses films vont devenir de plus en plus autonomes et de plus en plus narratifs jusqu'à ce qu'elle va se mettre à faire des longs métrages. Il y en a 3 au total. Ces 3 longs métrages sont souvent le point de départ en fait d'autres œuvres. Elle commence par un médium, souvent le film, pour développer une idée qui va se transformer en dessin, en poésie, en objet, en installation et se retrouver dans l'espace muséal.
On retrouve ainsi une camisole accrochée à un mur et qui prend vie de manière aléatoire et saccadée. Elle provient du film La chambre de Buster, du nom de la star du cinéma burlesque du début du siècle, Buster Keaton.
Il était interné en hôpital psychiatrique suite en fait à une grande dépression. On va l'enfermer dans une camisole de force. Or, il se trouve que, étant le neveu de Houdini, du prestidigitateur, il sait se défaire des camisoles. Donc, Buster Keaton se libère de sa camisole et va fuir de l'hôpital accompagné d'une infirmière.
La camisole est loin d'être le seul objet à prendre vie dans l'exposition. On trouve l'emblématique roue du pan, un pan albinos mécanique dans la Ferdinanda, dont seule la structure métallique est légèrement inquiétante est extraite.
Il ne reste que de la bête, un corps décharnu fait de lances qui pourtant font la roue, qui essayent de nous séduire et qui en même temps nous menacent avec leurs pointes acérées.
Il faut dire que les objets sont souvent dotés, sinon d'une âme, au moins de mouvement chez Rebecca Horn. Ce sont 2 chaises propulsées l'une contre l'autre dans un combat sans fin, un lit parsemé de papillons irisés. Les animaux sont très présents, ou encore un piano fou suspendu au plafond et dont les entrailles musicales semblent subitement s'extraire.
Non seulement la musique classique, dans ce qu'elle peut avoir de plus beau, il y a aussi beaucoup de bruit qui nous dérange, qui nous éveille. Rebecca, elle va nous faire entendre des dissonances et des harmonies pour englober un large spectre d'émotions.
Une salle particulièrement énigmatique est consacrée au lien de l'artiste avec l'alchimie. Un ruban de mercure argenté devient un serpent oscillant, une pointe de métal dessine des ronds sur une surface d'eau. Toute l'exposition est aussi conçue autour d'un parallèle avec des artistes surréalistes tels Man Ray ou encore Jean Cocteau.
L'exposition Théâtre des Métamorphoses de Rebecca Horn à visiter au centre Pompidou-Metz jusqu'au 13 janvier prochain. Dans un instant, l'info sur RFI, à demain avec un invité exceptionnel, Manu Dibango, qui fête ses 60 ans de carrière. Vous pourrez d'ailleurs gagner des albums dédicacés. Alors soyez bien à l'écoute demain. À ce propos, bravo à nos 5 gagnants du jeu d'hier. Pascal Millet de Königswusterhausen, qui se trouve près de Berlin en Allemagne. Bravo aussi à Ricardo Akpo de Cotonou au Bénin, à Michael Zemba et Evdi Diama de Kinshasa en République démocratique du Congo, et de Mustapha Diop de Dakar, qui nous écoute de Toronto au Canada. Ils recevront donc tous les 5 le livre Civilisation de Laurent Binet que nous avons reçu hier. À demain donc, et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.